Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bon, on va passer à la partie interview de Julia. Est-ce que tu veux bien te représenter pour les gens qui nous regardent dans le chat, s'il te plaît?
Oui. Je peux te regarder toi? Non.
Tu peux regarder moi.
Je peux te regarder toi. Donc, je m'appelle Julia, je suis la cofondatrice de la marque Loom et je suis membre du collectif En Mode Climat.
D'accord. Et comment est-ce que tu décrirais genre Loom et comment t'es arrivée à Loom?
Loom, c'est Uniqlo en éthique.
C'est un très bon résumé. Justement, votre baseline, c'est un peu faire moins mais mieux. Est-ce que c'est pas un peu antinomique pour une marque de mode de chercher à faire moins? Aujourd'hui, dans l'industrie.
Là, maintenant que j'ai fait ce truc, je sais pas si je peux. Je suis plutôt une marque de vêtements qu'une marque de mode, je pense quand même. Et oui, je pense que c'est pas du tout antinomique. Bah, d'ailleurs, bah, si on prend ton exemple, genre le nombre de pièces que tu fais, le temps que ça prend de les faire, la créativité que tu mets dedans, en fait, on voit bien que genre c'est tellement de temps que genre en termes de production de pièces, finalement, t'en produis assez peu. Donc c'est bien la preuve que genre là, justement, ce qui est antinomique, c'est d'associer créativité et genre et rapidité. Ça, c'est pas de la créativité, c'est de la copie. Mais la créativité même, elle se nourrit de temps d'inspiration, de temps long, d'ajustement, etc. Donc, Anthony, non, ce n'est pas antinomique. Et il se trouve que nous, on est une marque de vêtements et que ça, tout ce qui pourrait nous faire croire que c'est antinomique, la sobriété et la fringue, c'est finalement les mauvais exemples qui sont devenus des success stories économiques. Mais qui nous a fait croire ça? C'est la fast fashion, quoi. Mais en fait, avant la fast fashion, il y avait d'autres marques de vêtements, il y avait d'autres manières de s'habiller, il y avait tout ce que tu chines en workwear, tout ce qu'on chine en fripe, tout le vintage qu'on cherche. C'était pas des gens qui produisaient en permanence de la nouveauté, au contraire, c'était des gens qui affinaient finalement des coupes, sans des cesse, matières, etc. Enfin,
même les périodes où les gens faisaient eux-mêmes leurs propres vêtements.
Ouais. Ouais. Quand tu fais toi-même tes propres vêtements, je peux te dire que t'es pas en production, t'en fais peu quoi.
Tu
fais des pièces par an et tout, et tu les gardes longtemps et tout.
Donc mais surtout, tu reprises après.
Tu reprises. Non, mais le truc de nous faire croire que la créativité c'est de la rapidité, c'est faux. Zara est créatif parce que Zara copie.
C'est ça.
Et même les créateurs arrivent à sortir autant de pièces parce qu'ils ont des armées de gens qui bossent pour eux et qui vont leur faire de la recherche et de la recherche en vintage, etc. C'est rien d'autre que ça.
Et justement, je crois que j'ai découvert Loom à travers Merci Alfred, la newsletter de pendant masculin en quelque sorte de My Little Paris à l'époque. Mais et ce qui m'avait surpris, c'était de voir autant de basiques d'une marque qui voulait proposer que des basiques de bonne qualité. Et c'était un truc que je cherchais énormément à l'époque. Il y avait genre Maison Standard à l'époque qui essayait de proposer ça, mais j'étais très vite déçu. C'est une autre histoire. Et Loom, justement, ce qui m'a étonné, agréablement surpris, c'est votre capacité à perfectionner au fur et à mesure des prototypes de génération en génération, se faire toujours mieux. Comment est-ce que tu décris ce processus créatif ou de production plutôt?
C'est un processus plutôt c'est plutôt ingénieur que créatif. C'est un processus itératif, quoi.
C'est vrai que quelque chose que j'ai envie de dire, c'est le travail
de
un travail d'ingénierie. Hein. Ouais. Parce qu'on n'est pas juste à travailler de la trend. Enfin, il y en a qui peuvent s'inscrire dans la trend et la tendance. Et il y en a d'autres qui essaient d'exprimer en fait une vision qu'ils ont et qui peut potentiellement coller aussi avec les attentes du moment. Mais le travail du vêtement, qu'on regarde, enfin surtout quand on passe par la phase production avec les usines et tout, on est vraiment dans...
C'est itératif, quoi.
Ah non, mais on est dans quelque chose qui est ultra ultra cadré, où en gros même la moindre finition, enfin ça se pense et ça change le coup. C'est de l'ingénierie, puisque on passe dans une phase où justement faut passer par des programmes, par des coupes, par des matières en fonction de la rétraction du vêtement, par rapport à tout le vêtement doit vivre. En fait, on a des paramètres qui sont totalement différents. C'est vrai que quand on est dans la phase un peu créative, on se dit, ah ben tiens, on pense comme ça et puis voilà. Mais en fait, au final, entre le délire créatif et la production industrielle, des fois il y a des ajustements qui doivent se faire.
Oui, et ces ajustements, vous les faites perpétuellement chez Loom. Et ce que je trouve assez frappant, ça se voit très bien sur votre site et sur votre Instagram, c'est votre volonté de faire de la pédagogie. Vous informez beaucoup votre clientèle, vous la formez quelque part à reconnaître la qualité. Pourquoi c'est important plus que jamais de savoir reconnaître des vêtements de bonne facture finalement?
Je sais pas si c'est vraiment ça. En fait, c'est juste que nous, on n'est pas, avec mon associé, on n'est pas de la mode. Et je pense que même pas, on n'a même pas, enfin, cette sensibilité-là. Enfin, moi, je me suis sensibilisée au beau au fur et à mesure du temps. Et même, je pense que, bon, rien qu'on le voit, comment je suis habillée aujourd'hui et comment t'habilles. Enfin, on voit que c'est pas, j'ai pas du tout la même, j'ai bien moins de sensibilité mode que vous tous autour de la table aujourd'hui et tout. Et finalement, ce que, on est rentré vraiment par l'approche vêtement, par l'approche, ben, qu'est-ce que c'est un bon vêtement? Qu'est-ce que c'est un vêtement qui tient bien dans le temps? Qu'est-ce que c'est un vêtement dans lequel on est confortable? Qu'est-ce que c'est un vêtement éthique? Qu'est-ce que c'est un vêtement bien produit? Et au fur et à mesure où on comprenait ces choses-là, et même si je pense qu'on en a compris qu'une infime fraction, on les vulgarisait, on les expliquait quoi. Donc on n'est pas très bon en image et pas très bon en style, on est bon en explication, en vulgarisation quoi.
Vous êtes même excellent.
Ouais, parce que moi je trouve que c'est.
Non, mais c'est très basique. Enfin, en tout cas, il y a un truc, il n'y a pas de.
Même faire du bon basique, c'est pas tout le monde qui arrive à le faire.
Ouais, clairement. C'est exactement ça. Et même pour apprendre ces choses-là, tout le monde n'est pas au courant déjà. Et le fait de renseigner les gens sur le côté éthique du vêtement, comment avoir un vêtement éthique, c'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est très compliqué. Enfin, voilà quoi. Et puis même, il y a ce côté, par exemple, j'avais vu que vous parliez à un moment donné de seconde main, si je ne dis pas habitué, enfin de la consommation du vêtement, enfin de faire attention à sa consommation du vêtement, même si elle est éthique. C'est-à-dire de ne pas trop consommer, même si le vêtement est éthique. J'avais vu quelque chose comme ça sur Instagram. Et je veux savoir, est-ce que vous pouvez un peu plus. Enfin, est-ce que tu peux en dire un peu plus cette moralité en fait,
la fast fashionisation de la seconde main.
Non mais en gros, c'est que c'est pas parce
la
que
tu vintage un peu.
Non mais c'est pas parce que ça t'achète éthique que ça pollue, enfin que ça pollue pas. Enfin tu vois, genre, produire un vêtement, ça consomme des ressources, ça émet des gaz à effet de serre. Enfin tu vois, ça consomme du temps de travail, des matières, etc. Donc aujourd'hui, on a un gros problème de surconsommation et surproduction de vêtements dans la mode.
Oui.
Mais même si tout ce qu'on consommait c'était éthique, si on consommait les mêmes volumes, on aurait quand même un problème.
Oui.
Donc c'est pour ça que l'illusion de se dire, ah ben, je peux continuer à consommer autant, mais je vais consommer des trucs en polyester recyclé, ça règle pas le problème en fait. C'est de la poudre aux yeux. Le vrai problème, c'est les volumes. Et donc ce qu'il faut, c'est
réduire le volume.
C'est produire moins, acheter moins et faire durer plus longtemps. Et par exemple, je pense que si tu achètes un haut comme ça, bah, tu vas en prendre soin, tu vas l'aimer, tu vas
le chérir des années.
Bah, en tout cas,
le prix auquel il peut sortir, oui, t'es obligé.
Bah, non, mais je pense que c'est un vrai truc. Enfin, d'ailleurs, je pense pas, c'est avéré. Qu'est-ce qui est le vrai moteur de la surconsommation? C'est la dégradation du prix. C'est que le prix des vêtements, globalement, depuis les années 80, le prix des vêtements a été divisé par deux. Donc ça induit qu'on a doublé notre consommation de vêtements. Enfin, vraiment,
et le volume
y a un truc. Donc c'est juste qu'on en consomme deux fois plus. Et cette dégradation du prix, pour en revenir au thème de l'émission, cette dégradation du prix, elle est obtenue par une délocalisation de l'industrie textile dans des pays qui exploitent les gens. Enfin, dans des pays du Global South. Où, par exemple, si on prend le Bangladesh, le SMIC là-bas, c'est $80. C'est un quart du minimum vital, en fait. C'est un quart de ce qu'il faudrait gagner pour pouvoir
vivre décemment.
Donc il y a un espèce de truc, cette surconsommation, cette baisse du prix des vêtements, elle se fait aux dépens finalement des conditions de vie des personnes qui font ces vêtements.
Parce que ce qu'on appelle le Global South, le Sud global, c'est les pays dits du Sud, du coup, donc d'Amérique latine, d'Afrique subsaharienne, ou même d'Afrique tout court d'ailleurs, l'Afrique du Nord aussi, d'Asie du Sud. Donc tout ça, c'est là-bas où on va produire à moindre coût auprès d'une main d'œuvre sous-payée, exploitée dans des conditions de travail et des droits du travail aussi qui sont déplorables, en tout cas qu'on tolérerait pas en Europe continentale. Et ça, c'est quelque chose que du coup tu refuses, toi, Julia, et ta marque. Et comment est-ce que ça marche, comment est-ce qu'on peut s'opposer à ce genre de pratique dans la mode aujourd'hui en France, tu penses?
En produisant localement. Hein. Quand tu produis au Portugal, quand tu produis au Portugal ou en France, c'est déjà faire différemment de 80% des fringues qui sont sur le marché. Donc c'est non seulement le faire, mais c'est aussi dénoncer un petit peu tout le Parce que t'as l'impression aujourd'hui que tu peux être là, mais bien sûr tu peux produire au Bangladesh et produire étiqueté, t'as des usines certifiées, etc. Et tout. Mais sauf que le salaire des ouvrières au Bangladesh, quelle que soit l'usine dans laquelle t'es, c'est $80 en fait. Quelle que soit l'usine dans laquelle t'es ou le travail au Bangladesh, même si c'est une usine hyper green, les meufs gagnent un quart de ce qu'elles devraient gagner pour vivre décemment. S'opposer à ça, enfin il faut juste le rappeler quoi. Il n'y a pas de... Sauf si vous achetez des vêtements produits commerce équitable, mais je pense que c'est très peu courant. Il y a pas de production éthique là-bas. Il y a pas de gens qui sont bien payés pour les vêtements qu'on achète où il y a marqué Made in Bangladesh.
Il y a une question qui est intéressante aussi sur le chat de Taijubo. De toutes les marques de luxe connues du grand public, y en a-t-il une qui se démarque par son éthique?
Je sais pas, j'ai pas trop.
Je crois que la seule, c'était la McCartney, mais ouais. Je crois que ça marche pas très bien. Enfin, les chiffres sont pas terribles, mais elle est maintenue chez LVMH parce que c'est la rançon green.
C'est ça. Je sais qu'elle est récompensée par la famille royale et tout en Angleterre.
Mais c'est pour la
démarche. Oui, c'est ça, c'est tout. Mais
qu'elle est fille d'eux aussi, enfin, l'aristocrate, tu vois. Mais ouais. T'allais répondre quoi, Paul McCartney?
Ah ouais? Ah, c'est donc ça, ce lien entre les noms de famille.
Toi, Julia, tu pensais à une marque? Moi, je pensais à... comment elle s'appelle? La Hearst, Gabriella Hearst. Mais qui est directrice artistique de Chloé maintenant et qui avait sa propre marque, qui a encore sa propre marque d'ailleurs, Gabriella Hearst. Et d'ailleurs, Hearst, parce que épouse du mania de la presse. Mais donc, c'est pratique quand on veut lancer une marque de mode d'être l'épouse d'un mec qui dirige plein de médias féminins. Mais bref.
Ouais, moi, en fait, j'en reviens vachement au truc. Enfin, je pense qu'il y a eu une partie, il y a eu un moment dans l'histoire de l'industrie textile où on a cru que les marques de mode éthique, elles allaient sauver le monde. Et ces marques de mode éthique, elles sont nées, elles se sont développées, et c'est un carton économique. Tu vois, c'est les Veja, les Patagonia.
Non.
En fait, pas vraiment éthique, mais enfin, c'est plus elle personnellement qui avait plus un discours sur le fait
elle
de faire
voulu,
changer.
Oui. Elle a voulu, oui. Elle a voulu, mais c'était.
Bon, en même temps, vu les volumes, ils n'ont pas non plus des volumes démentiels,
qui
mais Vivienne Westwood.
Mais en vrai, il y avait 40 lignes de diffusion différentes, donc non, je ne pense pas. Mais c'est une autre question, on y reviendra. Mais vas-y, poursuis, Julia.
Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, peu importe ce qui est des marques éthiques ou pas, est-ce que l'avènement des marques éthiques, ça a changé quelque chose au problème global éthique ou social, éthique ou écologique de l'industrie textile? En fait, on voit que non.
Enfin, c'est marketing surtout.
Je sais pas si c'est pas marketing, non, je pense que... Enfin, moi, j'ai pas l'impression que mes engagements sont marketing
non,
et tout.
Non, je pense pas, mais le truc, c'est qu'il y a plein de marques qui utilisent la valeur éthique.
Oui, comme un levier marketing.
Ouais.
Oui,
et beaucoup de concours aussi prennent en compte ce critère-là pour aussi plus facilement prendre des gens dans les sélections.
Et tant mieux, mais le seul truc, c'est que est-ce que ça fait changer la big picture? Est-ce qu'au global, les choses changent? Les choses ne changent pas, et au contraire, elles empirent.
C'est empire. Hein.
Non, mais là, on a quand même eu les Ouïghours. Enfin, c'est quand même dément. Enfin, on est en 2022. Il y a des camps d'esclavage. Il y a des gens qui sont des esclaves et qui font nos vêtements. On est en 2022 et la production de vêtements continue à augmenter, etc. C'est-à-dire que les efforts individuels ou même l'émergence de marketing, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est un changement réglementaire qui rende ça impossible. Il faut que ça soit interdit. Il faut que ça soit interdit que des vêtements qui sont faits par des esclaves rentrent sur le marché français. Il faut que ça soit interdit les modèles de... Enfin, il faut que les modèles économiques de la fast fashion soient régulés, etc. Donc, je trouve que... J'ai arrêté de me poser la question de savoir si telle marque était éthique ou si telle marque n'était pas éthique. Je pense que collectivement, ce qu'on doit demander en tant que marque, en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, ce qu'on doit demander, c'est aux États, aux nations de réguler ce secteur qui, sinon, en fait, si on le laisse sans régulation, il détruit les gens qui produisent, il détruit les pays qui reçoivent nos déchets textiles, il détruit l'emploi des vendeuses en France, il détruit des vêtements, il détruit même la beauté des fringues. Enfin, vraiment, c'est catastrophique que 80% des fringues soient la fast fashion qui les produisent. Il n'y a plus de créativité, en fait.
Ouais.
Il y a juste du pillage, en fait. Il y a juste de la copie et tout. Donc voilà, je sais pas qui c'est qui est éthique ou pas. Je sais juste que tu sais, de la même manière, tu sens, on a bien compris que les efforts individuels des gens, c'était pas... On pouvait pas compter que sur ça. Ce qu'il faut, c'est...
En coupant le robinet.
Non, mais il faut... Très bien, c'est important pour prendre conscience, c'est important pour avoir une valeur d'inspiration et tout, mais maintenant, il faut des lois, quoi. Il faut des réglementations qui changent tout ça.
Et justement, tu fais partie de Hormode Climat. Qu'est-ce que c'est que ce lobby vertueux qui veut changer la mode?
C'est ça. En gros, c'est un collectif d'entreprises du secteur textile français, des industriels et des marques. Et on dit, très bien, on est des marques plus ou moins éthiques, mais tout. Mais en fait, ça sert à rien, les marques éthiques, et ça sert à rien d'attendre le réveil du consommateur tant qu'on laisse des modèles délétères se développer, quoi. Et du coup, on dit... Régulez-nous, régulez notre industrie, parce que sans régulation, ça va aller de mal en pire. Et c'est terrible, mais toutes nos prédictions, elles se réalisent. Enfin, genre, et là, la fermeture de Camaïeu, la fermeture de Kukai, la fermeture de San Marina, et l'explosion de Chine, et l'explosion de Primark. Et là, il y a un espèce de nouveau, de nouvelle marque chinoise ultra fast fashion qui arrive, qui est Temu, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, c'est genre, si on ne régule pas, ça sera vraiment la course du pire en pire. Et ces nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, qui sont sans scrupules, ils connaissent un succès économique de dingue. Enfin, Chine, c'est genre, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un succès comme ça dans le monde de la mode et dans l'industrie textile. Donc voilà, nous, on est
un. Qui détrône Inditex.
Qui est quoi?
Qui détrône en ce moment.
Qui détrône Inditex, qui vaut plus cher que Zara et Inditex réunis et tout. Enfin,
mais après, je sais pas, moi j'ai pas tellement. Enfin, je pense que la culture de l'achat internet, ça me. Enfin, moi, c'est pas un prix qui détermine mon impulsion d'achat. Enfin, après, c'est ma manière personnelle de consommer, mais c'est vrai que je traîne pas dans les centres commerciaux.
Il y en a pas vraiment beaucoup à Paris non plus, tu vois. Donc, puis t'es pas une mère de famille avec 4 enfants qui grandissent plus vite que la musique.
Mais après, le truc, c'est que je fais pas vraiment de shopping, en fait.
Oui, oui, ouais, mais je pense que t'es pas.
Je traîne tout ça.
Non, mais en fait, je pense que c'est peut-être parce que je travaille aussi dans le milieu et que forcément, je suis plus dans une logique de moi me développer et compagnie. Donc, j'ai peut-être un rapport différent aux vêtements. Mais les rares vêtements que j'achète, c'est souvent quand je vais en fripe, et encore, j'y vais, je pense, le moins possible parce qu'à chaque fois, je dépense trop d'argent. Mais je sais que c'est des pièces qui peuvent me servir de base pour. Peaufiner par la suite des pièces que j'ai envie d'introduire dans ma marque. Donc, j'achète des pièces juste pour avoir en tête une technique qui pour moi n'est pas assez développée, et c'est de retrouver et sourcer d'où ça vient.
Effectivement, je pense qu'en toute façon on n'est pas représentatif des consommateurs et consommatrices moyens, tu vois, enfin, parce qu'on est hyper éduqué, hyper informé. Et voilà, mais c'est hyper.
Mais pour le coup, la salopette que je porte, c'est un truc de l'armée française. Attends, les pompiers de l'armée de l'air.
Rip-top, renfort genou, bande fluorescente, poche cargo.
On fera un outfit of the day tout à l'heure. mais effectivement, c'est hyper intéressant. Attendez, il y a plusieurs remarques dans le chat. Il y a une info, breaking news, de Dive Yubu qui nous explique que Pharrell Williams vient d'être nommé DA. De Louis Vuitton homme, j'étais pas courant, mais ok.
Il fait tout Pharrell, hein.
Je préfère ça que.
Je sais pas. Ah, l'ancien, ok.
Non, il est.
Ok, oui, de toute façon, je pense que c'était pas possible.
Non.
Il y a Pathé qui nous demande, j'ai une question sur la production. Mais en fait, pardon, d'abord pour réagir à ce que tu disais, Julia, parce que j'ai trop peur d'oublier, c'est que, effectivement, en fait, c'est hyper binaire de dire est-ce qu'il y a des bonnes marques et des mauvaises marques. C'est beaucoup plus compliqué que ça, effectivement. Et on peut se demander s'interroger sur nos usages. Est-ce qu'on porte nos vêtements longtemps? Est-ce qu'on essaye de les réparer quand il y a un besoin, etc. Et la question de, oui, interpeller les marques, interpeller les gouvernements pour faire changer le système, en fait. On a un pouvoir citoyen, on a un pouvoir en tant qu'acheteur, et on a un pouvoir à collectivement, en fait, en se réunissant, en s'informant aussi, l'information c'est le pouvoir. Il y a Miss Lumière Vif Kézak JSN, j'aurais pas dû me lancer dans la lecture de ce pseudo, mais bienvenue, enfin t'es là depuis quelques heures maintenant, donc qui disait, c'est effrayant un peu, les matières, les couleurs déterminent mon impulsion d'achat, en réagissant à ce que tu disais tout à l'heure, Vincent, et chez moi il y a de plus en plus de ressourceries. Ah bah dis-moi dans quel coin t'habites, ça nous intéresse. Et il y a Fateh qui dit pareil, je me laisse un peu trop convaincre par quoi j'ai pas suivi. Mais en fait, j'aurais dû lire le commentaire plus tôt.
normal. Enfin, c'est une industrie qui a des milliards à disposition pour essayer de te faire oublier ses impacts négatifs.
Oui.
C'est normal que tu montes. Mais moi, des fois, je tombe dans le piège. Des fois, je suis là. Eh, franchement, c'est. Non, Julia,
ressaisis-toi.
Je reste devant, je suis là, c'est quand même beau et tout.
Mais justement, j'ai l'impression que là, ça commence à être légiféré, ou peut-être pas légiféré, mais en tout cas, le gouvernement français et européen, même les autorités européennes, font des efforts pour davantage de traçabilité dans la mode. Est-ce que tu y crois? Est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce que t'en penses, Julia?
Non, ça, alors vraiment, il y a un truc, genre, en fait, il y a de l'agitation, mais actuellement, ce qu'il faut réguler, c'est le modèle économique de la fast fashion, c'est-à-dire les bas prix, produire dans des pays pas chers et les incitations à consommer. Actuellement, il n'y a rien dans les régulations, ni nationales, ni européennes, ni même mondiales, qui s'attaque au modèle de la fast fashion. Toutes les régulations qui ont lieu, elles tombent à côté de la plaque. Par exemple, l'interdiction de destruction des invendus. Qui détruit ses invendus,
d'après vous? Marque de luxe.
Ouais. Parce que qu'est-ce que t'es une marque comme moi, même si moi si j'avais des invendus, mais je fais des discounts en fait.
Je vais pas l'être.
Tu vois, genre, les seules personnes qui détruisent leurs invendus, c'est le luxe. La traçabilité, va sur le site de Primark et ils ont une carte hyper bien faite avec toutes leurs usines. Ils montrent usine au Bangladesh, usine en Chine, etc. La traçabilité, genre, les marques de fast fashion sont méga en avance là-dessus, bien plus que le luxe. Vas-y pour trouver dans quel atelier ça a été fait un sac Vuitton. Donc en fait, il y a un vrai truc où genre ces mesures qui ont l'air d'être d'aller dans le bon sens, elles tombent à chaque fois à côté de la cible. La cible, c'est les bas prix et c'est les incitations à consommer. Donc, on pourrait croire que ça va dans le bon sens. Dans les faits, ça patine. Et on le voit parce que, en fait, il n'y a que à... Pour s'en rendre compte, il faut toujours regarder le... Caméra radio. Non, pour s'en rendre compte, il faut toujours regarder un œil global sur le marché. Qui sont les marques qui montent? Qu'est-ce que les Français achètent? Quels sont les indicateurs de pollution? Comment ça évolue? Est-ce que le Ghana reçoit moins de vêtements? Est-ce qu'il y a moins de production de vêtements neufs chaque année? Est-ce qu'on utilise moins de coton conventionnel? Est-ce qu'on utilise moins de matière vierge? Enfin, tout ça, en fait, tous ces indicateurs-là, ils montrent que, mais on va pas du tout dans le bon sens. Donc, non, les régulations actuelles ne vont pas dans le bon sens, et même, et nous, le plaidoyer qu'on porte, c'est-à-dire celui de réguler la fast fashion, n'est pas entendu. N'est pas entendu dans aucune des fenêtres réglementaires existantes. Et une bonne soirée à vous.
Et justement, quelles mesures concrètes on pourrait mettre en place aujourd'hui en France et en Europe? C'est quoi les propositions en mode climat, par exemple?
T'as plein de fenêtres réglementaires où tu pourrais mettre ça. Mais par exemple, tu sais, t'as une micro-taxe qui est collectée sur chaque vêtement, comme pour les frigos. T'as une micro-taxe...
Refashion.
Ouais, voilà. Et donc, c'est chacune de ces taxes. Ouais, tu dois cotiser. Pour toi, ça doit pas être trop cher. Et donc, cette taxe, elle est censée servir à gérer la fin de vie des produits. La taxe, elle est de 1 centime par vêtement.
Ça va. 1
centime par vêtement, donc que tu sois Loom ou que tu sois Zara, tu vois. Donc, il y a un truc. Si tu veux vraiment pénaliser le modèle de la fast fashion, bah, tu fais un bonus-malus. Tu dis, bah, par exemple, toi, tu payeras pas de taxe, toi, tu gagneras 5 euros par vêtement. Et par contre, Zara, ils paieront. Même pas, et 50 centimes par vêtement de taxes, ce qui me semble assez raisonnable pour gérer la fin de vie. Dans l'affichage environnemental, il faut être sûr aussi que les mêmes choses qui se passent. Il faut être sûr qu'un vêtement Zara, ça soit mal noté, et qu'un vêtement à toi, ça soit bien noté. Enfin, en tout cas, c'est juste que faire en sorte de pénaliser le modèle de la fast fashion dans toutes les fenêtres réglementaires existantes. Et on pourrait même aller plus loin, on pourrait dire, il n'y a pas de vêtements qui rentrent sur le marché européen s'il a été produit par des Ouïghours. Si de près ou de loin, t'arrives pas à prouver qu'il n'a pas été produit par des Ouïghours. Ça, il y a un truc. On pourrait avoir ça s'appellerait le devoir de vigilance au niveau européen. On dirait, si la marque, elle a touché de près ou de loin à de l'esclavage, et ben en fait, ces vêtements, ils sont interdits de commercialisation en France. Ça marche, hein. Et ça éviterait de faire poser sur les épaules du consommateur une espèce de culpabilité de laquelle il pourra jamais savoir. Tu vas dans un magasin, t'es là, mais attends, mais si c'est fait par des esclaves, comment ça se fait que c'est autorisé de me le vendre? Pourquoi ça doit retomber sur tes épaules à toi de décider si tu vas acheter un truc qui est bien fait ou un truc qui a exploité des gens? C'est honteux, en fait. Ouais. C'est pas le rôle du consommateur, ça c'est le rôle de l'État, de nous protéger de ça. Donc voilà, tu peux faire, t'as 1000 endroits où tu peux faire rentrer ces régulations-là.
Julia, président.
Ouais, voilà.
Je vote pour. Il y a une question qui est un peu moins gouvernementale, c'est de la part de Fateh qui nous demande, elle a envie de se remettre à coudre, elle voudrait choisir des tissus éthiques, est-ce que c'est possible pour ce coup des vêtements? Moi je pense à Nona, mais c'est Nona un peu luxe, tu vois.
Oui, t'as pas mal de trucs
pour commencer.
Il y a pas mal de...
C'est un deadstock du groupe LVMH.
C'est un peu c'est niche, cher, hein. Laisse ça c'est peut-être aux jeunes créateurs qui veulent lancer leur marque, mais si jamais tu veux, il y a Nona, N-O-N-A.
Et Make My Lemonade, ils font pas des tissus aussi?
Je sais pas si tu peux acheter des tissus chez Make My
Lemonade. Si, à l'époque, dans le magasin, ils avaient des trucs comme métrage. C'est comme ça qu'elle s'est créée, qu'elle avait créé le truc.
Moi, je savais pour les patrons, et qu'elle proposait des patrons pour coudre et tout. Mais je savais pas qu'elle proposait des tissus. Mais sinon, en vrai, ça dépend de ton volume de production, Faté. Mais si tu coudes toi-même tes vêtements, si tu vas au marché Saint-Pierre et que t'achètes quelques mètres, c'est ok,
Oui, il y avait Anaïs Desrecupera qui récupérait des rideaux, tu sais.
Mais elle a fermé sa marque, non?
Il y a des dead stock, en fait, qui sont disponibles en Île-de-France. Moi, je sais que la tissu tech. Non,
il y a peut-être des tissus tech.
Oui, en fait, avant, ils étaient vers le RER B, j'oublie le nom de la ville. Et maintenant, ils se sont rapprochés, ils sont à Bobigny. Et ils ont une page sur Facebook et un compte Instagram où à chaque fois, ils annoncent tous les deux mois.
Comment
je crois que c'est la bibliothèque. Comment c'est attends,
je sais que... Mais attends, mais ça, là, je crois que Fatel nous parle de coûts des vêtements en tant que particulière. Hein.
Oui, non, mais en fait, c'est accessible au public. C'est 5 euros du mètre pour tous les tissus et tout ce qui est en soie, c'est 10 euros du mètre. Ils imposent simplement d'avoir 3 mètres de tissu à acheter.
10 euros le mètre, la soie, c'est cool, hein.
Peu cher. Je vais faire des draps là-bas.
Ils imposent simplement d'acheter 3 mètres à chaque fois quand tu fais des achats pour les particuliers. Moi, c'est une astuce qui m'a été donnée par une étudiante de Charnon, ça va.
On veut les noms.
Plus cher, mais en coton, là, je suis dégoûtée. Que la soie, ce soit moins cher que le...
Et sinon, pour les matières bio, c'est aussi considéré comme éthique ou pas?
En fait, si t'achètes le coton, il faut que ça soit bio. Pas se poser la question. Il y a un article sur notre blog qui explique ça. Ça s'appelle Insectocalypse Now. Mais vraiment, genre, le coton conventionnel, c'est une catastrophe pour la biodiversité. Enfin, faut plus se poser de questions, quoi. Enfin, si vous achetez des trucs neufs, faut que ça soit en coton bio. Si vous achetez des trucs neufs en coton, faut prendre du coton bio. C'est vraiment, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus, quoi.
Mais même là, je fais peut-être une digression, mais même les sous-vêtements en coton, allez les trouver, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Enfin, pour les hommes, en tout cas, il y a toujours un mélange. Ce coton pur.
Non, mais tu peux pas, parce qu'il faut de l'élastane un peu.
Faut vraiment ça.
Non, moi j'aime bien le lyocell.
Mais même dans le corps, si tu ne mets pas d'élastane, ça va être ton truc. Enfin, tu peux faire un caleçon, mais tu ne peux pas faire un boxer.
Non mais justement les boxeurs moi j'ai trouvé il y a quelques marques qui font des slips en coton, enfin moi je porte des slips personnellement, mais c'est vachement dur de trouver juste un slip 100% coton.
Parce que ça se détend en fait.
Non, pas plus que ça.
Ah si moi j'ai fait des tests.
Non, c'est plutôt l'élastique en fait qui...
Si dans le corps t'as pas de coton, t'as un truc mécaniquement enfin tu vois, t'as un truc où ça marche pas, quoi. Enfin, où avec les lavages ça se détend. T'as réussi à en avoir sans élastane dedans?
Ouais.
T'as vérifié qu'il y avait un fil d'âme, ok.
Bah, envoie-nous la ref, ça nous intéresse. Et on fera un crash test. J'ai testé pour vous. Les slips 100% coton.
J'en ai testé. Il y en a qui, soi-disant, étaient un peu 100% coton de Calvin Klein et qui, au bout d'un moment, se déchirent par endroits. Mais là, il y en a d'autres que j'ai acheté récemment de d'autres marques. Je sais même plus ce que c'est en plus. Je trouvais ça entre La Redoute et Zalando. Bref. Mais j'ai justement fait un tri pour checker qu'est-ce qui était vraiment 100% coton avec zéro élastane. Et c'est vrai qu'en dehors de l'élastique, il n'y a pas d'élastane. Et je trouve que même la tenue, la forme est mieux.
Ok, gros débat sur le slip ce soir.
Je retourne beaucoup sur le côté... Mais même c'est les médecins qui m'ont recommandé de faire ça, parce que c'est même mieux pour la peau.
C'est l'élastane qui déconseille.
Ben, porter le plus possible quelque chose naturel, en tout cas en coton, c'est mieux pour la peau.
D'accord. Ok.
Moi j'allais dire, j'adore une marque qui s'appelle Cadeau de la Providence, CDLP, en lyocell, mais je trouve c'est mal. Julia, est-ce que je vais brûler en enfer de la fast fashion?
Yes, Anthony, c'est pas grave.
Oh non.
Il y aura plein de gens stylés avec toi.
Ah, merci.
Peut-être Lil Nas X.
Peut-être.
C'est clair. C'est vrai qu'il est pas 100% coton, lui.
Non. Il y a Faté qui confirme, c'est dur de trouver du 100% coton, effectivement. Einels qui dit, la Rocco Slip, j'adore, on veut la Rocco Slip 100% coton, s'il te plaît. Et puis montre-la à Julia, ça se trouve elle fera des slips 100% coton.
Je regarde.
Moi j'ai essayé de faire des sweats 100% coton.
Voilà. Allez, on va faire un plan large.
Je sais pas ce que tu veux dire.
J'ai envie de dire, le JT mode part en couille, sans mauvais jeu de mots.
C'est Seba.
Tu l'écris comment?
C-E-C-E-B-A.
Purée, on va leur demander une OP commerciale là.
De fou là.
Par contre, c'est vachement beau. Ils t'envoient le packaging, c'est comme un tube en carton cylindrique avec des trucs en métal.
Ok.
Le
packaging.
Ouais, quand tu le reçois.
D'accord. Je regarde en direct et j'avais une dernière question pour toi, Julia. Deux questions. C'est quoi la question qu'on se pose pas assez selon toi sur l'industrie de la mode? C'est une question hyper large, mais comme ça, c'est ton
100%
moment.
100% coton, il a raison. Elle est en train de chercher.
On va la laisser réfléchir et elle reviendra.
Qu'est-ce que c'est la question qu'on se pose pas assez?
Ouais.
Je pense qu'on le sait. Tout le monde sait à peu près. Enfin, tu vois, genre, il y a rien qu'on découvre vraiment là dans tout ce que j'ai dit. Tu vois, sur les problèmes de la mode. Je pense que.
Dites-nous dans le chat si vous apprenez des choses ce soir. De la bouche de.
Non, mais je pense que quand même, on en a entendu parler des scandales, de la pollution et tout, de l'industrie de la mode et tout. Peut-être qu'on se pose pas assez la question de comment faire pour changer ça. Et qu'à chaque fois qu'on se pose la question, on revient un petit peu sur le consommateur, la bonne volonté des entreprises, etc. Et je pense qu'il faut vraiment se poser la question, je pense qu'il faut vraiment se souvenir que la solution, c'est de demander à l'État de nous protéger de ça, en fait. Nous protéger en tant que consommateur et en tant que société d'une industrie qui détruit. Une industrie qui détruit la créativité, qui détruit les vies des travailleurs là-bas, qui détruit de l'emploi en France, qui détruit la vie des gens au Ghana avec la pollution textile et tout. Enfin, c'est vraiment le rôle de l'État, c'est de nous protéger de ça. Personne n'y gagne rien à ces trucs-là, sauf quelques mecs qui s'enrichissent, mais on n'y gagne rien du tout.
Et justement, par exemple, là, il y a plein de gens peut-être qui ont entendu parler de En Mode Climat pour la première fois. Est-ce que en tant que particulière, on peut faire un truc, vous soutenir ou quoi? Vous n'avez pas besoin de soutien des particuliers?
Oui, vous pouvez suivre notre compte Instagram et tout. Mais là, ce que vous pouvez peut-être soutenir, c'est une autre une ONG là, qui s'appelle The OR Foundation. Ils viennent de lancer une pétition qui s'appelle Stop Waste Colonialism. Et je pense qu'ils ont besoin de soutien, de gens qui soutiennent en fait leur demande. En gros, ce qui se passe, c'est que tous les pays occidentaux envoient leurs vieux vêtements, vendent leurs vieux vêtements aux pays d'Afrique, aux pays du Global South, et en particulier le Ghana est un gros récepteur. Et en fait, vraiment, populations locales sont noyées sous les déchets textiles. Et là, c'est vraiment une ONG qui essaye de faire en sorte que l'Occident et des comptes à rendre sur cette pollution que les gens subissent là-bas. Donc ça s'appelle Stop Waste Colonialism.
J'ai mis le lien dans le chat.
Ça explique hyper bien globalement ce qui se passe, pourquoi ça s'est arrivé, comment il faut agir et tout. Et donc encore une fois, ça c'est une ONG qui a des propositions réglementaires extrêmement concrètes sur comment enrayer le phénomène. Des propositions qui sont globalement ignorées, quoi. Donc voilà. Si à eux on peut leur donner de la force, ça serait vraiment chouette. Et si vous avez de l'argent à donner, donnez plutôt de l'argent à cette ONG. Parce que là, c'est vraiment littéralement. C'est la vie des gens qui est. Enfin, les gens meurent étouffés de nos vieux vêtements. Enfin, c'est littéralement ça.
Je dirais que l'industrie de la mode tue.
L'industrie de la mode tue. Since day one, enfin, l'industrie de la mode, c'est les champs de coton, enfin vraiment.
J'ai envie de dire depuis l'industrialisation du monde, ça tue.
Ouais. Et même depuis, enfin genre les champs de coton, quoi. Enfin vraiment genre.
L'esclavage.
C'est la racine de la mode. Les usines, même quand les usines, elles étaient en Europe, enfin vraiment c'était l'enfer. Enfin le travail des enfants, c'était beaucoup dans les usines textiles. Parce qu'ils avaient des petits doigts, ils pouvaient mettre les trucs, les fils dans les aiguilles, etc. Enfin c'est une histoire de
maltraitance, de
destruction. Et de violence à l'industrie de la mode. Et le truc, c'est que il y aurait moyen de faire autrement. Et c'est ça qui est génial dans notre époque, c'est qu'aujourd'hui, il y aurait vraiment moyen de faire autrement. Il y aurait vraiment moyen de faire une industrie relativement propre, qui exploite pas, qui fait bien, qui habille bien, qui fait des trucs beaux. Mais ça n'arrivera pas par magie, quoi.
Ok. Effectivement, je vous renvoie vers l'épisode Coton du podcast Matières Premières que j'ai co-animé pour Mademoiselle. Enfin, que j'ai animé tout seul en fait. Pardon, je sais pas pour qui. J'ai oublié qui j'étais pendant 2 secondes. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on revient justement à la racine du coton, sans mauvais jeu de mots, et à l'esclavage en fait, comme première machine industrielle de la puissance économique que sont les États-Unis. Et de l'esclavage à l'époque. De la traite négrière jusqu'à aujourd'hui les Ouïghours, en fait, l'exploitation du coton est complètement liée à l'esclavage, en fait. Donc, c'est hyper intéressant et vertigineux et important de s'en rendre compte et de s'en rappeler à chaque fois qu'on utilise du coton comme si c'était gratuit.
Ouais.
Il y a beaucoup de sang derrière les champs de coton tout blanc. Voilà. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner au grand public qui se soucie de sa consommation de vêtements et qui ne sait pas quoi faire, en fait, qui se sent hyper coupable et qui cherche un moyen d'agir concrètement ?
Acheter chez lui. La prochaine fois que vous avez envie d'acheter une fringue, vous achetez chez mon voisin. C'est sûr que vous allez économiser pendant 2 ans, c'est sûr que vous allez chérir cette fringue, c'est sûr que vous allez la réparer, c'est sûr que vous allez mettre une serviette avant de manger des spaghettis bolognaises. Non mais en fait faut acheter des vêtements que dans lesquels on met il y a de la valeur et la valeur c'est pas forcément l'argent qu'on met dedans, mais en tout cas c'est on est sûr qu'on va faire tout notre possible et pour les faire durer le plus longtemps possible. Il faut que quand vous achetez un vêtement il y a un truc, vous soyez dégoûté s'il est abîmé, comme si vous perdiez votre collier en or, comme si vous rayiez la caisse de votre voiture, quoi. Faut que vous en preniez autant soin que ça.
Ok, je me sens encore plus coupable. Non, je rigole. Non, c'est parce que j'achète vraiment.
Non, mais toi, tu fais ça. Toi, t'as
moi, je suis pas soigneux. Je suis archi pas soigneux.
Oui, mais t'es pas soigneux, mais t'aimes tes pièces et t'aimes oui. dingo des pièces. T'achètes pas. Enfin, t'achètes.
Pas compulsivement.
Tu chines tes trucs, oui. Tu cherches tes trucs de créateur, etc.
Ouais, mais après, je les abîme. Et je suis là. Non, mon prototype qui est une pièce unique que je pourrais jamais refaire et racheter. Zut alors.
Mais ça, voilà. C'est. Bon, ça, c'est une psychothérapie. Allons-y.
Oui, c'est une psychothérapie. Eh bien, on va faire ma psychothérapie. En attendant, je vais vous laisser. J'ai mis le lien Instagram de En Mode Climat, de Loom, de Vincent Frédéric Colombo dans le chat. J'ai également mis le lien vers la pétition excusez-moi.
Stop Waste Colonialism.
Stop Waste Colonialism. Et en fait, je le retrouve pas. Si, c'est bon, je l'ai bien mis, voilà. Donc allez-y, informez-vous, c'est hyper important. Le pouvoir, c'est pas que dans la thune, c'est aussi dans l'information. C'est pour ça qu'on fait cette émission. D'ailleurs, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des dernières questions, des dernières remarques, c'est maintenant. Et au pire, vous les posez en DM à Julia Faure et à Vincent Frédéric Colombo, qui étaient mes invités ce soir, nos invités avec Sarah.
Oui.
Sarah, je vais mettre ton Instagram aussi, dis donc.
Merci.
voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour nous. Attendez, oui. J'écris l'Instagram de Sarah pour être un hôte équitable.
C'est celui-là.
Équitable.
Voilà, on a parlé d'éthique toute la soirée, donc on va être éthique jusqu'au bout.
Voilà.
Fateh qui nous dit que je me sens visée avec les pattes bolo. Daïchoubou qui nous dit ou revisiter nos fringues, tout simplement, moyen de les aimer encore plus. C'est vrai, totalement vrai, les styliser autrement. J'ai oublié de dire que j'avais mis mon collier Paco Rabanne pour rendre un mec à Paco Rabanne. Genre, je suis vraiment une modeuse de merde. merci à tous pour ce live. Bonne soirée Paris, bonne soirée Daïchoubou. Bisous merci à Montréal beaucoup. Encore une fois. Bravo l'équipe, nous dit Ainel, qui est la personne qui a installé le setup de qualité que nous voyons avec Delphine. Merci Inès pour ce setup de qualité. Merci mademoiselle, merci tout le monde. Bonne soirée,
merci.
Prenez bien soin de vous. Attendez, petit instant miniature pour le live, le replay YouTube, pardon.